Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Djoliba TV News, ravis de vous retrouver encore une fois pour votre émission « Cette semaine en Afrique ». Bonjour et bienvenue. « Cette semaine en Afrique », c'est votre émission qui fait le décryptage de l'actualité hebdomadaire en Afrique à travers des récits, des décryptages, des analyses. Nous vous parlons de tout ce qu'il faut savoir sur le continent. Aujourd'hui, nous avons comme thématique les controverses de l'accord migratoire de Donald Trump qui propose à plusieurs États africains d'accueillir sur leur territoire des migrants indésirables et expulsés des États-Unis, comme le Soudan du Sud. Le Rwanda a accepté d'accueillir 250 de ces migrants expulsés sur son sol. Quant aux Nigériens, ils rejettent l'offre américaine, invoquant leurs propres défis internes. Avec leur population de 232 millions d'habitants, nous en parlerons en deuxième partie de l'émission. Mais avant, le premier sujet nous envoie en Centrafrique, où un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion est en cours après la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés de l'UPC et de 3R. Suivons ce récit pour nous informer davantage sur le sujet avant d'entrer dans le vif du débat.
En République centrafricaine, un tournant crucial vers la paix a été franchi avec le désarmement volontaire de plusieurs ex-combattants du groupe armé UPC à Maloum, près de Bambari. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'accord de paix signé en avril 2025 à N'Djamena entre le gouvernement et deux groupes armés majeurs, l'UPC et 3R. Conduit par l'unité d'exécution du programme DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement, et appuyé par la MINUSCA, le processus comprend la remise d'armes, un soutien psychosocial, une identification biométrique et une aide à la réinsertion professionnelle. Depuis 2018, plus de 13 000 ex-combattants ont été démobilisés et des milliers d'armes collectées. Ce désarmement massif marque une étape décisive dans la reconstruction du pays, encore profondément marquée par des années de guerre. Le conflit centrafricain remonte à 2013 avec la prise du pouvoir par la coalition rebelle Séléka, à majorité musulmane, qui renversa le président François Bozizé. En réaction, des milices chrétiennes anti-Balaka ont émergé, déclenchant une guerre intercommunautaire meurtrière. Depuis, la RCA s'est morcelée sous le contrôle de groupes armés rivaux malgré plusieurs accords de paix successifs. La MINUSCA, présente depuis 2014, tente de sécuriser le pays et de soutenir les institutions fragiles. Si les retours et la stabilité restent fragiles, les récentes avancées sur le terrain offrent un espoir concret de paix durable.
Ceci était le récit sur la Centrafrique. Pour décrypter ce sujet, nous avons deux invités sur notre plateau. Monsieur Moussa Bilali Sidibé, il est journaliste au quotidien L'Indépendant au Mali. Bonsoir Moussa Bilali
Sidibé. Bonsoir Tina Tamara.
Comment ça va?
Je vais très bien, alhamdoulilah.
Bienvenue à Djoliba TV News.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation.
D'accord. Comme deuxième invité, nous avons Monsieur Mohamed Maïga. Il est journaliste et analyste politique. Bonjour Monsieur Maïga.
Et bonjour à vous. Donc, je vous remercie de cette invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être sur votre plateau. Donc, vraiment merci et bonsoir à l'ensemble des chers téléspectateurs et téléspectatrices de Djoliba News TV.
D'accord. Vous êtes journaliste de formation. Vous venez tout à l'heure de regarder ce récit sur l'actualité en Centrafrique. Mmh. Actuellement, un accord de paix a été signé et c'est la phase de démobilisation, désarmement et réinsertion qui est en cours. Selon vous, quel a été le facteur déterminant pour l'enclenchement de ce processus de paix en Centrafrique?
Bon, je pense qu'il y a avant tout une politique, ou bien on peut dire qu'il y a avant tout une volonté politique. Mmh. De la main tendue du président centrafricain. Et également la volonté de l'ensemble de groupes politico-militaires qui ont aussi répondu à l'appel et à la main tendue du président centrafricain. Donc, appuyé par le soutien de bon voisinage du Tchad, donc des négociations négociées et pilotées par le président tchadien, qui est aussi longtemps, on peut dire le Tchad, qui est aussi longtemps considéré comme un pays voisin, qui était également les bases aériennes militaires de groupes armés des centrafricains. Donc, on peut dire que sur ce point, le général ou bien le maréchal, peut-être vous m'excusez, le maréchal Mohamed Idrissa Déby Itno a donc compris que il est temps pour lui d'œuvrer dans le cadre de la paix et de jouer le rôle de bon voisinage pour vraiment instaurer la paix parce que la stabilité de l'ensemble de la région est dans l'intérêt aussi de son pays. Donc pour moi, voilà un peu ce qu'on peut retenir de cette signature historique d'un accord de paix entre IR, les 3R, et le IPC et le gouvernement centrafricain.
D'accord, merci beaucoup. On retient que la main tendue du président a joué un rôle favorable au retour de la paix, et aussi le soutien du voisin tchadien. Monsieur Moussa Bilali, vous venez d'entendre ce qu'il vient de dire. Plusieurs accords de paix ont été signés en Centrafrique, parmi lesquels on peut citer ceux qui ont été signés à N'Djamena en 2013, en Brazzaville en 2014, Khartoum en 2019. Et pourquoi n'ont-ils pas réussi à instaurer jusqu'ici la paix, selon vous?
Merci beaucoup pour la question. Vous savez, la situation en Centrafrique, c'est une situation qui est très complexe. C'est à la fois le mélange d'une crise intercommunautaire, une bataille pour les ressources naturelles et aussi des intérêts géostratégiques qui se jouent dans le pays. Donc, ce qui fait qu'il y a trop d'intérêts en jeu, donc il y a beaucoup trop d'acteurs. Donc, ce sont des facteurs qui ont quand même conduit au fait que, malgré la signature de 3 accords successifs les dernières années, on n'a pas pu parvenir à une paix durable. Alors donc, on peut expliquer aussi ce facteur-là par le fait que aujourd'hui, c'est que ça soit le Seleka ou bien l'Anti-Balaka, qui est quand même un groupe armé qui défend la communauté chrétienne, Seleka qui défend un peu la communauté musulmane, donc n'était pas parvenu à s'asseoir autour d'une même table pour discuter réellement de comment la gouvernance va se passer dans le pays. Alors donc ça a été un facteur. On peut aussi noter un peu l'échec de la communauté internationale parce qu'on a vu il y a d'autres acteurs qui sont entrés en jeu entre-temps, notamment l'intervention de Wagner, peut-être qu'on va y arriver. Alors donc ce qui fait que cela a complexifié davantage la situation. Mais aujourd'hui, avec la dynamique qui vient d'être enclenchée, on peut espérer quand même que on peut parvenir à une paix dans les jours à venir parce qu'on sent que l'élite quand même est tenue par non seulement le gouvernement, mais aussi des pays proches, des pays frontaliers comme le Tchad aujourd'hui qui s'impliquent beaucoup. Et on a vu la bonne foi aussi des groupes armés. Récemment, on a vu que 500 hommes de l'UPC ont déposé les armes pour rejoindre les rangs de l'armée. Donc on peut espérer que dans les jours à venir, il y aura un changement de cap par rapport aux 3 dernières années, les 3 accords qui ont été signés. Par rapport à ces 3 accords, on peut penser que la dynamique qui vient d'être enclenchée peut aboutir à une paix que la Centrafrique mérite.
D'accord, merci beaucoup, M. Sidibé. M. Maïga, vous venez d'écouter M. Sidibé. Il est optimiste cette fois-ci, mais selon vous, est-ce que, à votre avis, la paix est-elle vraiment possible cette fois-ci ou ceci est juste un cessez-le-feu de plus?
Bon, je pense que la paix est encore possible vu la volonté que ces différents acteurs ont engagée. Ils ont montré une volonté ferme pour arriver pour mettre terme à cette situation de chaos dans leur propre pays. Donc je pense que, comme il l'a si bien dit, il y a plusieurs facteurs qui s'expliquent pour dire que ça dire qui empêche on peut dire qui empêche le succès ou bien la réussite de ces accords là. Donc parmi lesquels il a cité quelques-uns où je vais rebondir, où il parlait de la communauté internationale. Effectivement la communauté internationale est un grand acteur, a un rôle majeur à jouer dans ce processus. À travers quoi? À travers la mission onusienne en Centrafrique qui est la MONUSCO.
MINUSCA.
Donc vous m'excusez. Et je pense que qu'est-ce qui fait que ces accords-là ont échoué? Il y a non seulement le manque de cette communauté internationale, il y a également le manque des moyens de contrôle du territoire. Parce qu'au cours de ces derniers accords, il y avait une grande partie du territoire, la majeure partie du territoire était occupée par des groupes armés. Donc l'État n'avait pas entièrement le contrôle de son territoire, il n'avait pas également des moyens suffisants pour mettre la pression sur les groupes acteurs qui vont peut-être violer ces accords-là. Donc c'est l'un des facteurs que j'ai compté ajouter sur les idées qu'avait avancé mon co-débatteur.
D'accord, mais selon vous aujourd'hui, quels sont les risques qui persistent après le dépôt des armes?
Bon, après le dépôt des armes, je pense que cet accord a pour objectif de désarmement, démobilisation et réinsertion. Ceci pour dire, c'est pour permettre aux combattants de ces groupes armés de pouvoir intégrer la vie sociale, intégrer le socio-professionnel, le milieu socio-professionnel. Mais il y a également, c'est-à-dire, au-delà de toutes ces opportunités-là, il y a certains problèmes que cela engendre. Pour moi, ces accords-là, dans leur manque d'applicabilité, prônent également une autre forme de violence. Je m'explique. Oui. C'est-à-dire que quand vous prenez la situation, par exemple, au Mali, il y a eu des accords déjà où c'est des groupes armés qui ont pris des armes contre le pouvoir en place, l'État central, pour réclamer des droits. Alors que dans un pays, nous avons une institution, nous avons des lois que nous sommes tous obligés de respecter. Bon, je pense que quand vous vous sentez victime d'une injustice, il faut aller avec la procédure. Il y a une manière de faire. Aller à la justice pour réclamer justice. On ne se rend pas justice soi-même. Et quand je dis que ça prend une autre forme de violence, c'est parce que cette forme d'accord encourage d'autres jeunes de ce pays-là à prendre les armes pour eux aussi se faire justice eux-mêmes. Vous voyez? Parce qu'on a vu que, qu'ils soient au Mali ou ailleurs, partout il y a eu des accords déjà, on promet des postes, les groupes armés sont même dans des positions où ils réclamaient, ils ont des recommandations à faire. C'est des groupes armés, c'est des citoyens du même pays, et c'est des citoyens de ces pays, et ils ont pris des armes contre leur propre pays. Donc, à mon avis, à ce niveau-là, on ne doit pas... L'accord, c'est bon. Aller au dialogue, c'est bon. Mais pour moi, le dialogue, c'est quoi? C'est de dire, là, d'accord, on était des mauvais citoyens. On avait failli à notre mission de citoyenneté et de patriotisme. Nous avons vraiment regretté ce qu'on avait fait parce qu'on avait pris des armes contre nos frères, contre nos sœurs. On est là pour être jugé. On se rend pour se faire juger. Donc, et non pas pour imposer des conditions et des recommandations comme étant un autre État à part. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est vraiment une faillite souvent dans les négociations. Et toujours pour dire, c'est une autre forme de violence parce que quand vous donnez l'opportunité à ceux qui ont pris les armes, il y a d'autres jeunes qui se sentaient dans cette situation.
D'accord.
Donc, ça peut peut-être l'obliger.
Oui. Pour vous, le risque, c'est que cet accord de paix ne soit pas comme une forme de rétribution et de prime ou bien de vis-à-vis de ceux qui ont pris des armes contre l'État.
Tout à fait, tout à fait. Comme d'accord. Je l'ai dit, nous sommes des citoyens. Il faut dire au peuple centrafricain que nous sommes désolés. Il faut s'excuser auprès de cette population et de ce gouvernement-là pour leur faire savoir qu'on avait vraiment tort de penser qu'on pouvait se rendre justice en prenant les armes. Donc aujourd'hui, il est vraiment temps qu'on enterre la hache de la guerre de façon définitive et qu'on va se rendre dans les rangs des citoyens tout simplement.
D'accord, on va y revenir, M. Moussa Bilali. Oui. La même question, à votre avis, après le dépôt des armes, quels sont les risques qui peuvent encore persister dans ce pays?
D'accord, merci beaucoup pour la question. Quand même, il a fait une sorte de parallèle entre la situation en Centrafrique et au Mali. Je pense qu'il y a une différence d'approche qu'il faudrait souligner. Vous savez, en Centrafrique, avant la signature de l'accord, les mouvements armés 3R, qui est la branche vraiment la plus violente, je pourrais dire, et l'UPC ont été dissous. Ces mouvements ont été dissous avant le début du processus DDR. Donc, ce qui fait une grande différence entre la situation en Centrafrique et au Mali. Nous, on a signé un accord avec des groupes armés et que le processus est enclenché tout au long du processus. Le désarmement continue tout en maintenant ces groupes armés-là en vie, ce qui a été une grosse erreur chez nous ici. Donc, cela fait une différence entre notre cas et le cas centrafricain. Et au-delà de ça, il a évoqué l'aspect justice. Je pense que dans un processus de paix, chaque partie est appelée à faire des concessions. Peut-être que ceux qui ont pris des armes, quand on fouille, on enquête, peut-être qu'il y a des raisons valables qui les ont poussés à prendre les armes. Peut-être qu'ils avaient des droits légitimes que l'État n'est pas parvenu à assurer. Alors donc, dans ce sens, je crois que toutes les parties sont appelées à faire une concession pour qu'on puisse quand même parvenir sur la base de la paix. Il a parlé de justice. Ceux qui ont pris les armes, en les prenant, en les mettant devant la justice, en les condamnant, cela peut davantage agrandir le sentiment de révolte, de frustration dans leur camp. Alors donc, qui parle de paix, parle de concession. Ça, c'est la base. C'est vrai, les morts, c'est très regrettable. L'idéal aurait été que ça soit puni. Mais du moment où on s'engage à aller vers la paix, il faut quand même faire des concessions. Maintenant, parlant des risques, pour revenir à votre question, il y a un mécanisme qui a été mis en place. Le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion, il faut veiller à ce que ce mécanisme-là soit matérialisé, d'où le rôle crucial de la MINUSCA. Alors donc, nous, chez nous ici, ce processus-là a traîné pendant des années. Mais pourquoi ? Parce que en réalité, toutes les parties n'étaient pas de bonne foi. Et ceux qui sont appelés à assurer la médiation aussi avaient des intérêts parallèles. Oui. Alors donc, c'est ce qu'il faut éviter en Centrafrique. Que ce processus-là soit une réalité, que les groupes armés déposent les armes, rejoignent les rangs de l'armée républicaine. En même temps, le processus de réinsertion sociale, en créant des emplois, en créant des richesses, que l'État s'attelle à ça avec le soutien des partenaires. Si cela n'est pas le cas, ça sera le retour à la case de départ.
D'accord. Et ce processus de réinsertion comprend une identification biométrique et surtout, ce qu'il vient de dire, une aide à la réinsertion professionnelle. Et M. Maïga, et comment s'assurer, il vient de parler tout à l'heure de ce qu'il faut faire pour que ces combattants, ces ex-combattants ne rejoignent plus ces mouvements armés. Pour vous, comment s'assurer que ces ex-combattants ne rejoignent plus ces groupes armés qu'ils viennent récemment de quitter?
Bon, je pense que déjà dans cette situation, le Centrafrique en a beaucoup investi dans ce sens-là, comme la communauté internationale également, pour obtenir la paix. Mais malgré tout, parce qu'on n'est pas avec les premiers accords. C'est pas une première. Nous sommes avec le quatrième, si je ne m'abuse, des accords entre le groupe, l'État central et le groupe armé. Mmh. Mais nous sommes toujours dans ce processus d'accord. Ce qui veut dire que ça n'en finit jamais dans cette manière de faire. Il faut que l'État soit fort d'abord, qu'il ait le contrôle, même pas, on ne peut pas dire total, mais entier de son territoire. Il faut qu'il y ait une armée forte et des moyens également pour mettre la pression. Parce que tant que l'État central n'a pas de moyens pour mettre la pression, je pense que ces accords-là ne vont jamais aboutir. Parce qu'on l'avait vu à maintes reprises, ça s'est répété, et nous sommes à un quatrième accord. Donc je pense que l'un des facteurs même qui a empêché l'aboutissement de ces accords-là, c'est parce que l'État n'était pas en position de mettre la pression. Et il y avait également d'embargo et des sanctions internationales contre les pays même qui étaient victimes de ce banditisme. Au lieu de mettre l'embargo sur les bandits et ceux qui ravitaillent ces bandits-là, on a mis d'embargo sur les pays même qui étaient victimes pour l'empêcher d'avoir des armes. Alors qu'on savait tous aujourd'hui que il faut qu'un État puisse avoir un arsenal armé vraiment de haut niveau, de haute technologie et surtout des dernières générations.
D'accord. Et pour vous, et
Comment est-ce que ce programme peut servir de modèle pour les autres États en Afrique en crise, au Mali et dans d'autres pays comme le Congo? Est-ce que ça peut servir de modèle? Est-ce que vous voyez quelque chose de particulier dans cet accord, dans ce processus de paix qui peut servir d'exemple aux autres États?
Bon, je pense que si c'est pour répondre à votre question, je risque de retourner un peu dans le début de mes idées, parce que je ne suis pas entièrement pour ce type d'accord, parce que j'ai dit dans la pratique, je ne suis pas trop optimiste.
Donc, pourquoi?
Parce que, comme je le suis bien dit, j'ai dit on voit des groupes armés qui ont pris des armes contre leur propre État et sont accueillis ici au Mali, dans les palais présidentiels, comme des héros nationaux. On avait même déroulé des tapis rouges pour ces gens-là qui doivent être considérés comme des traîtres. Je m'excuse, mais je pense que c'est des gens qui doivent être considérés comme des traîtres, des gens qui ont trahi la nation, des gens qui ont tué des Maliens, des gens qui ont tué partout à travers le monde. Donc, il faut qu'ils soient traités comme ils sont. Je pense que c'est de cette façon-là, si toutefois qu'on n'est pas content de notre situation, on prend les armes contre son pays et on réclame ses droits et on nous accueille au palais présidentiel pour nous dérouler un tapis rouge et nous faire plaisir, je pense que ça va continuer.
D'accord. M. Siribé vient tout à l'heure de parler des frustrations que subissent généralement ces populations qui se rébellent contre leurs États. Et quel rôle peut jouer une meilleure gouvernance pour prévenir ces genres de crises au sein des pays? Parce qu'il faut savoir que quand ces gens généralement prennent des armes contre leur État, c'est parce que parfois il y a parfois des manques d'eau, des manques d'infrastructures. Quel rôle l'État peut jouer sur le plan de la gouvernance pour éviter ces genres de conflits?
En parlant de frustration, je pense que je suis obligé toujours de m'expliquer en fonction de la situation du Mali que je maîtrise le mieux. Parce que je vois que mon co-débatteur, soit il est risque ou bien il est victime d'un élément de langage. Parce que selon le cas du Mali, qu'est-ce qu'on nous a dit lors de l'arrivée de ce groupe rebelle, l'Azawad? Ils ont dit que le Nord a été abandonné, qu'il y avait ceci, il y avait cela, il y avait manque d'eau et de tout.
Oui.
Donc, c'est des gens qui se plaignent de la situation du Nord, de leur région. Mais qu'est-ce qu'on avait vu? Ça, c'est dans les télévisions et dans les radios. Ça, c'est les narratifs internationaux.
Mm-hmm.
C'est ce qu'on nous fait croire que c'est parce que l'État a abandonné une partie du territoire où ces gens-là cherchaient l'indépendance pour se développer.
Pour vous, ce n'est pas la vraie
raison. La vraie raison, ce n'est pas ça.
Mm-hmm.
Pourquoi ce n'est pas ça? C'est leur pratique sur le terrain qui nous montre que ce n'est pas ça la vraie raison. Parce que c'est des gens, je ne peux pas comprendre que quand tu viens, tu te plains de la situation de ta maison, que c'est mal construit. Malgré tout l'argent que tu avais investi, ce n'est pas la maison à hauteur de l'argent que tu avais investi. Est-ce que en se plaignant, tu dois tout casser? Il faut chercher à augmenter, à améliorer l'état de la maison, mais pas de ce que toi, tu te plains de quelque chose et c'est donc tu te plains, tu les mets au chaos.
Donc, chaque fois, passer par les règles de droit
pour réclamer ses droits.
Pour réclamer ses droits.
Ses droits, oui.
OK. Monsieur Siribé, la même question. Quel rôle peut jouer les États et sur le plan de la bonne gouvernance pour éviter ces genres de conflits? Comme vous l'avez si bien dit, ces gens qui s'élèvent et prennent des armes subissent généralement des frustrations. Pour vous, quel rôle peut jouer l'État pour éviter cela?
Merci. D'emblée, je dirais qu'en Afrique, la mauvaise gouvernance est la mère de tous les maux. La mauvaise gouvernance, encore une fois, est la mère de tous les maux en Afrique. En réalité, quand nous prenons la République centrafricaine aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus pauvres en Afrique. Dans le dernier classement de la Banque mondiale, le pays a encore régressé. Pourquoi? La mauvaise gestion des ressources, la corruption, la gabegie. Et ce n'est pas propre qu'à ce pays-là seulement. Nos États sont confrontés à ce problème-là. Il nous a ramené un peu dans le cadre de ce qui s'est passé au Mali.
Au Mali.
Et les situations sont différentes. Mmh. Moi, j'ai une autre lecture du cas du Mali.
D'accord.
Moi, je l'ai dit, généralement, lors de mes interventions, je l'ai dit, de la même manière que le coup d'État a été inscrit dans notre Constitution comme un crime imprescriptible, de la même manière, la rébellion armée contre son pays doit être un crime imprescriptible. Je le répète souvent lors de mes interventions, ça ne peut pas se justifier. prendre les armes contre son pays, aucune raison ne peut justifier cela. Mais cela dit, il ne faut pas nier la réalité des faits. La plupart du temps, on ne se révolte pas comme ça. Il y a une raison dernière. Et aujourd'hui, si nous prenons les zones, je ne vais pas revenir au Mali, comme le débat se situe sur la République centrafricaine. Mais les régions où il y a les plus fortes tensions, ce sont les régions les plus sous-développées du pays.
Oui.
À la frontière avec le Tchad, ça a été complètement délaissé pendant des années. C'est ce qui a donné un terreau pour que les groupes armés essayent de se renforcer et de revendiquer certaines choses. Donc, aujourd'hui, la bonne gouvernance, c'est la meilleure des thérapies, à mon avis. Et aujourd'hui, je crois que le gouvernement centrafricain doit veiller à cela. Changer de fusil d'épaule, la transparence, investissement, en s'ouvrant surtout au monde extérieur. Parce que là aussi, il faut le dire, à un moment donné, l'État centrafricain était dans une posture de tel pays étranger est mon ami, tel autre est mon ennemi.
Mm-hmm.
Je crois que ça ne fait pas l'affaire d'un pays, surtout un pays qui n'est pas encore développé. Il faut savoir chercher ses intérêts, s'ouvrir à tout le monde, travailler avec tout le monde et aussi surtout veiller à la bonne gestion des ressources du pays, à la bonne répartition des ressources du pays. Cela peut grandement contribuer à faire taire les armes qui ont trop souvent crié dans ce pays.
D'accord. Et dernière question pour sortir de cette thématique. Et dans cette crise, on ne voit pas beaucoup le rôle joué par les puissances africaines telles que le Nigeria et l'Afrique du Sud, et aussi les organisations, l'Union africaine ou l'institution sous-régionale au Tchad actuellement, en Afrique centrale. Et selon vous, quel rôle peuvent jouer les puissances africaines pour stabiliser le continent? On commence par vous.
Bon, moi je pense que le Nigeria comme l'Afrique du Sud, étant des grandes puissances du continent, doivent vraiment s'afficher comme étant des leaders de ce continent. Peser de leur poids, tant économique que démographique, mais également de leur poids sur la scène internationale pour vraiment s'afficher étant des leaders de ce continent pour apporter leur contribution dans la stabilité régionale. Et en faisant quoi? C'est-à-dire en se mettant au service de leur peuple. Parce qu'ils ont été élus par le peuple. Et le dirigeant doit comprendre que chaque dirigeant élu doit se mettre au service de son peuple. Donc, répondre aux attentes et aux aspirations du peuple. Sans quoi, je pense que l'Afrique restera longtemps comme on peut dire, c'est-à-dire une chambre de bataille pour les autres.
D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter?
Oui, tout ce que je peux dire, c'est que nos institutions en Afrique ont encore du chemin à faire. On manque de courage. Je ne sais pas dans les textes si l'Union africaine n'a pas encore la force d'assurer le lead de l'intervention de la communauté internationale dans les affaires en Afrique. On ne sent pas du tout l'Union africaine être au devant de la scène. Aujourd'hui, quand on parle de médiation en Centrafrique, c'est la MINUSCA, les États-Unis, la Russie. Alors donc, l'intégration africaine, les organisations en Afrique, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, je pense que ces institutions aujourd'hui méritent de s'assumer, d'être vraiment des organisations actrices de la gestion des affaires qui concernent les pays africains. Et je crois que dans ce sens, peut-être qu'il y a des faiblesses au niveau des textes. Sinon, ces organisations doivent avoir la possibilité, en cas de conflit dans un pays, intervenir, que ce soit politiquement, que ce soit militairement, pour ramener la paix.
D'accord, merci beaucoup, M. Sidibé. C'est sur ces mots que nous passons à la deuxième thématique. Comme nous l'avons si bien dit, les controverses de l'accord migratoire de Trump qui propose à plusieurs États africains d'accueillir des migrants expulsés des États-Unis d'Afrique. Il y a déjà le Rwanda qui a accepté de recevoir 250 migrants sur leur territoire. Et qu'en dit-il de ce sujet? Écoutons ce récit et pour en savoir davantage.
Le Rwanda a signé en juin un accord avec les États-Unis pour accueillir jusqu'à 250 migrants expulsés du sol américain. Cette mesure s'inscrit dans une politique initiée sous Donald Trump visant à rediriger vers des pays tiers des migrants considérés comme indésirables, souvent sans lien avec ses destinations. Kigali justifie cet engagement par son expérience du déplacement et de la réintégration héritée de son passé post-génocide. Les migrants accueillis bénéficieront d'un accompagnement complet, logement, soins, formation. Le gouvernement précise qu'il conserve le droit de refuser certaines personnes proposées par Washington. Ce type d'accord reste très controversé, notamment en Afrique. Le Nigeria, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Youssouf Tougar, a catégoriquement rejeté l'idée d'accueillir des migrants d'origine tierce, invoquant ses propres défis internes. Selon lui, le Nigeria a suffisamment de problèmes et ne peut pas accueillir des expulsés des États-Unis. Ces expulsions ont aussi suscité l'inquiétude du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui dénonce des violations potentielles du droit international, notamment en matière de non-refoulement, de procédures régulières et de protection contre la torture. Plusieurs cas alarmants ont été documentés, comme l'expulsion des ressortissants asiatiques vers le Soudan du Sud, un pays instable et pauvre. D'autres migrants ont été envoyés en Eswatini, sans lien culturel ou géographique avec ces pays. Cette politique soulève des questions éthiques. Alors que certains pays comme le Rwanda coopèrent, d'autres comme le Nigeria résistent. En toile de fond, les pressions diplomatiques américaines et les risques de marchandage migratoire nourrissent une controverse croissante. D'autres pays africains seraient également courtisés par les États-Unis pour accueillir des personnes dont les pays d'origine ne les reprendront pas, selon les autorités américaines.
C'était le récit tout à l'heure sur l'actualité concernant les États-Unis qui demandent à l'Afrique d'accueillir les indésirables de leur État. Et M. Sidibé, on continue toujours avec vous. Comment qualifiez-vous ces accords migratoires proposés par l'administration Trump à l'Afrique?
D'abord, permettez-moi quand même de souligner qu'aujourd'hui, ce que les migrants subissent aux États-Unis est assez critique. C'est à la limite révoltant parce que, avant tout, les migrants quand même sont protégés par des textes internationaux. Cela dit, ce processus que le gouvernement Trump vient d'enclencher, notamment avec le Rwanda, en envoyant des migrants, c'est pas nouveau parce qu'on se rappelle en 2024, le Rwanda avait déjà décidé d'accueillir des migrants britanniques sur son sol, moyennant une somme d'argent. Alors donc, ce qu'on peut dire, c'est que si le Rwanda accepte de les accueillir, c'est à ses risques et périls. Maintenant, le fait de l'imposer à tout le monde, ça, c'est un problème. Par exemple, le cas du Nigeria. Parce que le Nigeria, il faut le dire, subit une forte pression des Américains depuis qu'ils ont refusé quand même d'accepter ces migrants-là. Parce que pourquoi pour le Rwanda, c'est à ses risques et périls? Parce que, d'abord, le processus migratoire, souvent, sont vecteurs de développement dans nos pays. Parce que les migrants, quand ils partent à l'étranger, ils amassent une somme de connaissances, de savoir-faire qu'ils peuvent venir transposer dans leur pays. Alors donc, en accueillant des migrants qui ont passé plusieurs années aux États-Unis, ils peuvent quand même venir booster peut-être plusieurs secteurs de développement du pays. Mais cependant, tu as qualifié ces migrants-là, tu as prononcé un qualificatif quand même qu'il ne faut pas prendre à la légère.
Les indésirables.
Les indésirables. Pourquoi sont-ils des indésirables? Est-ce que ce sont des criminels qui ont été quand même à la base de plusieurs problèmes aux États-Unis qu'on veut renvoyés? Ou bien est-ce que c'est juste des gens qui ne participent pas, qui ne contribuent pas à l'économie du pays et on veut se débarrasser d'eux?
Donc, que pour le cas du Soudan, c'est déjà des anciens criminels déjà.
Voilà. Donc, ces facteurs-là, je ne comprends pas. Sinon, un État, je ne sais pas comment un État peut se permettre déjà, en connaissance de cause, accueillir des criminels sur son sol, quelle qu'en soit l'offre. Quelle qu'en soit l'offre. Donc, le Rwanda, dans cette posture, Paul Kagame, on le sait, il est quelqu'un, il est stratège aussi, il est pragmatique. Peut-être qu'il a ses idées. Alors donc, le fait qu'il a accepté de les accueillir, on va voir la suite. Maintenant, pour ce qui est du Nigeria, moi, je suis tout à fait d'accord avec les autorités nigérianes de ne pas vouloir accepter des pressions, parce que avant tout, c'est une question de souveraineté aussi. Mais la stratégie Trump à tordre le cou à n'importe qui, je pense que ça a ses limites et ça va pas longtemps faire qu'on le saura dans pas longtemps.
D'accord, merci beaucoup, M. Sidibé. M. Maïga vient tout à l'heure de brosser et donner son avis sur le sujet. Mm-hmm. Ce type d'accord, selon vous, bilatéral, est-ce que c'est habituel entre des États ou bien c'est une dynamique récente dans l'histoire des accords migratoires?
Bon, je pense que si vous me permettez de parler un peu du contexte historique de l'immigration avant de répondre à votre question, il faut noter que l'immigration est un phénomène continu et permanent, qui présente toutefois des caractéristiques en fonction des époques, des continents. De l'Antiquité à la fin de l'époque moderne, ce déplacement se fait progressivement, causé soit par des invasions guerrières, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons démographiques. Mais on voit aujourd'hui que c'est l'inverse qui se passe. Par exemple, ça veut dire que dans le passé, les grandes puissances, c'est-à-dire les pays de départ étaient considérés comme des grandes puissances. C'est-à-dire que la population était comme une ressource pour le pays. Oui. Donc la démographie était considérée comme une ressource. Mais aujourd'hui, Cette même mobilité qui était considérée comme une ressource est en train d'être rejetée par les grandes puissances. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'auparavant, les grandes puissances veulent avoir plus de population et aujourd'hui, les grandes puissances rejettent les gens. Oui. Donc pour moi, c'est une situation qui est non seulement hors cadre des droits internationaux, comme il l'avait si bien mentionné, mais quand vous parlez d'un accord habituel existait auparavant ou pas, il y avait ce même type d'accord entre ce même pays, Rwanda, et le Royaume-Uni, si je ne me trompe.
Il a déjà dit.
D'accord. Donc c'est ce genre d'accord qui existait entre ces deux pays-là, avec ce même type de recommandations à peu près.
Que pensez-vous de la réaction du Nigeria qui a refusé d'accepter ces migrants américains?
Bon, peut-être, comme je l'ai toujours dit, il y a toujours, dans ces situations-là, il y a toujours une narration qui prime souvent. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, des indésirables, je pense que quand vous êtes indésiré, qui veut de vous? Tout le monde vous rejette. Personne ne voulait de vous. Tout le monde vous rejette et personne ne va vous accepter. Peut-être que votre pays, qui n'a pas d'autre choix que de vous accepter, va vous accepter, mais pas un autre pays qui n'est pas de vôtre. Donc, c'est peut-être dans ce cadre-là que Nigeria a aussi refusé ce refoulement sur son territoire. Parce qu'on considère que c'est des bandits, c'est des criminels, c'est des prisonniers. Donc, c'est des personnels de tout genre et qualifiés de tous les mots qu'il faut vraiment s'en débarrasser. Ça, c'est selon la narration américaine. Donc, en fonction de quand tu te mets dans ce cadre de narration, vous allez forcément rejeter. Mais pour Rwanda, peut-être qu'ils le voient autrement. Parce que le Rwanda a été considéré comme un pays d'accueil historiquement.
Un pays modèle en Afrique.
Donc, peut-être dans ce cadre-là, il s'est dit comme nous sommes sollicité dans ces cadres-là, il faut accepter. Et il y a également l'intérêt de financement qui a été proposé selon les accords pour accompagner ces immigrés qui vont être refoulés. Mais au-delà de tout ça, qu'en est-il du droit international? Parce que quand vous prenez ce cadre-là, les cadres de cet accord, ce n'est pas des immigrés qui vont être refoulés ou bien envoyés de chez eux. C'est une déportation. C'est des gens qui ont pris des forces pour les envoyer dans un autre pays. Parce que l'ensemble de ces immigrés-là qui vont être, ils vont être déportés au Rwanda, c'est des gens venus de tous les horizons. Ils ne sont pas que des Africains ou bien que des Rwandais, ils sont de tous les horizons. Donc, c'est des gens qui vont être amenés de force vers le Rwanda.
D'accord. Et Monsieur Sidibé, que pensez-vous de cela? Ces migrants vont être envoyés sur le territoire nigérien où ils n'ont aucun lien culturel avec cet État, ils n'ont aucune famille, aucune relation dans ces États-là. Et que pensez-vous de ce type d'accord? Est-ce que les droits humains sont respectés à ce niveau?
Merci beaucoup pour la question. Déjà, je voudrais souligner un aspect qui est l'aspect démographique en fait. Le refus du Nigeria se justifie à ce niveau-là également. Le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé en Afrique, avec plus de 200 millions d'habitants. Et contrairement au Rwanda, qui quand même, on le sait, le pays est passé par le génocide en 1994, le pays a besoin de renforcer ses ressources humaines. Donc il y a ce facteur-là qui justifie encore le refus nigérian. Maintenant, accueillir des migrants qui n'ont pas une racine culturelle, qui ne sont pas enracinés dans les valeurs du pays, je crois que éthiquement, ça suscite un problème. J'ai vu dans l'élément, j'ai retenu le passage, ça pose un problème éthique. Si juridiquement c'est permis, quand même ça pose un problème éthique. Et déjà, ceux qui seront expédiés vers ces pays-là, naturellement, je ne pense pas que ça soit par leur consentement. À ce moment-là, je crois que la dignité humaine est quelque part bafouée. Alors donc, je pense que réellement, cette stratégie de durcissement de la politique migratoire aux États-Unis, aujourd'hui, la communauté internationale, l'ONU, et d'autres structures telles que la structure en charge de la protection des migrants, l'OIM par exemple, doivent avoir le courage aujourd'hui de dire la vérité face à cette posture américaine. Mais on le sait, le monde est basé sur des intérêts, les finances. La plupart de ces organisations sont financés en grande partie par les États-Unis. Nous avons vu le cas avec l'USAID, par exemple, quand les États-Unis ont décidé de suspendre leur financement à travers l'USAID. Le problème que ça a engendré. Et c'est pareil pour toutes ces autres organisations-là. Alors donc, ce qui rend la tâche assez difficile. Sinon, ces organisations doivent avoir le courage de dénoncer ce processus-là.
D'accord. Et selon vous, quel impact pourrait avoir cet accueil massif de ces expulsés des États-Unis en Afrique si le fait se généralise en Afrique? Quel impact socio-culturel pourrait avoir ou risque économique pour le continent?
J'espère bien que ça ne va pas s'étendre à d'autres pays. Maintenant, le risque, c'est quoi? Parce que, comme vous l'avez dit, la base culturelle, elle est très importante pour tout pays. Alors donc, ces gens qui vont venir en Afrique ont grandi dans un environnement avec une réalité carrément différente des réalités africaines. Il peut y avoir en même temps de bons comme de mauvais. Parce que comme je l'ai dit tantôt, ces migrants-là, peut-être que d'autres ont des compétences, ont des valeurs ajoutées qui peuvent apporter davantage au pays d'accueil. Donc, il faudra que ces pays qui décident quand même de les accepter tiennent compte de cela. Comment est-ce qu'on va assurer leur insertion? Parce qu'il faudra quand même un processus d'insertion pour qu'ils puissent suivre la dynamique culturelle du pays, pour qu'ils puissent suivre la dynamique politique du pays. Alors donc, ces facteurs-là, ces pays d'accueil doivent tenir compte de cela. Maintenant, on a dit, il y a des criminels qui en font partie, tels que ceux qui vont être envoyés au Soudan, par exemple. Alors, est-ce que c'est pour aller purger le reste de leur peine? Est-ce que c'est pour venir les déverser directement au sein de la population? Ce qui serait une abomination, carrément. Alors donc, la gestion quand même appartient aux États qui vont s'engager dans ce processus-là. Et comme je l'ai dit, c'est à leur risque.
D'accord. Il y a Paul Kagame qui s'est gardé le roi, le droit d'accepter ou de refuser ces migrants qui vont être proposés à l'État du Rwanda. Et selon vous, M. Maïga, quel impact pourrait avoir cet accueil massif des migrants en Afrique?
D'abord, il faut comprendre le comportement même de Donald Trump pour y retrouver un peu des raisons même de cette déportation. D'abord, il faut comprendre que Donald Trump, c'est une promesse de campagne qui a été faite. Il avait promis d'arrêter et d'expulser plus de millions de personnes c'est-à-dire qui sont en Amérique de façon illégale. Donc, c'est une promesse de campagne qu'il faut à tout prix matérialiser. Il faut le mettre en œuvre, il faut qu'il soit une réalité d'abord. Donc, il l'a fait pour honorer ses engagements ou bien ses promesses, pour tenir les promesses de campagne. Mm-hmm. Mais vis-à-vis de Rwanda, l'arrivée de ces immigrants-là, pour moi, j'ai toute autre perception de leur arrivée. Mm-hmm. Pour moi, c'est toute une ressource intarissable d'enrichissement. Parce que c'est des gens, comme vous l'avez si bien dit, qui viennent avec des cultures différentes, avec des connaissances. La plupart même sont des qui portent des bagages intellectuels.
À condition qu'on fasse le bon tri, comme
effectivement, c'est là où il y a le problème. Oui. Là, quand même, c'est là où il y a le problème. Mais il faut comprendre que ces gens-là, c'est des pères de famille qui sont partis. Bien qu'ils se sont même sacrifiés. Dieu seul sait comment ils se sont sacrifiés pour arriver aux États-Unis. Combien ils ont investi pour arriver. Juste pour apporter de bons vivres à leur famille. Pour faire nourrir des familles qu'ils ont laissées derrière eux. Mais voilà où est-ce qu'ils vont se retrouver. Des degrés ou des forces, on va les amener et les envoyer dans un autre pays où peut-être qu'on ne sait même pas ce qu'ils vont devenir. C'est plutôt les immigrants qui vont venir qui seront inquiets de leur sort. Mais ils ont une richesse, comme leur culture, comme leur savoir-faire. Certaines même sont des diplômés de plusieurs domaines. Donc, ils vont forcément apporter à la population rwandaise. Même s'ils auront forcément également des impacts comme...
Il faut dire qu'ils ont une culture de port d'armes également.
Bon, ça c'est ce qu'ils nous ont dit. Pas forcément. Il peut y avoir certaines qui portent des armes. Mais même chez nous, il y a des gens qui ont des armes qui n'ont jamais été démigrés.
Ah, si on ajoute à ce que nous avons ici, espérons seulement qu'ils feront le
bon tri. Effectivement, espérons qu'ils feront le bon tri.
Exactement.
Et qu'ils soient des bons qui vont apporter plus au Rwanda, tout simplement.
D'accord. Et M. Sirbe, vous avez parlé au début des pressions que subissent... que subissent les Nigériens actuellement et comment éviter que la pauvreté et la dépendance à l'aide étrangère rendent les États africains dépendants de ces types d'accords inversés?
Aide étrangère, ça a été toujours une question à plusieurs interprétations. Moi, personnellement, l'aide étrangère telle que nous l'avons chez nous, je ne pense pas que ça peut ouvrir les portes du développement. Parce que, comme vous l'avez dit, ces aides-là sont toujours conditionnées. Ces soutiens-là sont toujours conditionnés. Et ces conditions ne sont pas forcément adaptées à nos besoins. Alors, dans ce sens, je pense que nos États aujourd'hui doivent avoir le courage, quand même, de renoncer à toute aide qui ne répond pas réellement aux besoins du pays. Moi, par exemple, dans mon pays, j'ai besoin d'écoles, des centres de santé, de renforcer mon armée. Vous ne pouvez pas me proposer 100 millions de dollars et me dire d'investir, par exemple, dans la promotion du genre, dans la promotion
de la femme,
les contraceptions, des éléments pareils.
Famille.
Non, mais notre réalité, nos besoins ne sont pas du tout, sont loin de là. Alors donc, au même moment, on ne peut pas accepter qu'on accepte forcément de recevoir des migrants moyennant de l'argent, alors que je suis confronté à une démographie explosive. C'est dans ce sens-là que, je comprends la décision des autorités nigériennes et je la soutiens. Donc, mais au-delà de tout ça, quelle question se pose aujourd'hui ? La question de la migration en Afrique. C'est vrai, surtout au Mali, on sait que les migrants ont un apport important dans l'économie du pays. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps de créer les conditions nécessaires dans nos pays pour qu'on puisse créer des opportunités afin que nos jeunes, les bras valides, nos esprits, nos cerveaux ne prennent pas le risque d'aller dans un pays qui n'est pas forcément prêt à les accueillir.
D'accord.
Ça aussi, c'est un élément que nos dirigeants doivent prendre en compte. L'autre facteur, c'est le fait qu'aujourd'hui, la migration africaine est présentée comme un danger pour le monde extérieur, particulièrement l'Occident. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que la majeure partie de la migration africaine, c'est entre États africains. Ça aussi, il faut le dire. Et aujourd'hui, nos pays doivent renforcer davantage cela pour que nos hommes et nos jeunes puissent rester et contribuer valablement à l'économie de nos pays, ce qui peut nous permettre de nous en passer grandement à ces aides qui sont souvent conditionnées.
D'accord. Merci beaucoup, M. Sidibé. Je pense que les téléspectateurs ont bien compris ce sujet. C'est sur ces mots que nous passons à notre rubrique « C'est encore ça », un ensemble de brèves qui montrent où va l'Afrique, comment elle se porte à travers des brèves sur l'actualité de l'ensemble du continent. Suivons cette rubrique avant de passer à la phase suivante.
Cette semaine, l'actualité africaine a été dominée par trois ensembles de faits marquants qui mettent en lumière les tensions géopolitiques, les crises sécuritaires persistantes, mais aussi les efforts de résilience socio-économique à travers le continent. Tout d'abord, les tensions diplomatiques et géopolitiques se sont multipliées. En Afrique du Sud, Pretoria tente de désamorcer un bras de fer commercial avec les États-Unis afin d'éviter des droits de douane de 30% menaçant plusieurs secteurs économiques. Dans le même temps, les relations entre l'Algérie et la France se dégradent à nouveau. Paris souhaite mettre fin aux exemptions de visa pour les diplomates algériens en réaction aux arrestations des ressortissants binationaux. Par ailleurs, le Soudan accuse les Émirats arabes unis de financer des mercenaires pour soutenir les forces de soutien rapide, aggravant un conflit déjà meurtrier. Enfin, l'Égypte, pointée du doigt pour sa gestion de l'aide humanitaire à Gaza, tente de redorer son image en mettant en avant le passage de centaines de camions d'aide par Rafah. Les crises sécuritaires et humanitaires continuent de frapper durement plusieurs régions. En République démocratique du Congo, plus de 300 civils ont été tués par le groupe armé M23, malgré un cessez-le-feu récemment signé. Au Soudan du Sud, Médecins sans frontières a suspendu ses activités après l'enlèvement d'un de ses employés. Quant au Mali, 4 routiers marocains enlevés par des djihadistes ont été libérés après 6 mois de captivité, illustrant la persistance de l'insécurité dans le Sahel. Enfin, sur le plan socio-économique, des dynamiques contrastées se dessinent. Au Ghana, la nation est en deuil après un crash d'hélicoptère ayant coûté la vie à 2 ministres et à plusieurs hauts responsables. Au Nigeria, les infirmières des hôpitaux publics ont suspendu leur grève après un accord avec le gouvernement, marquant une avancée dans les négociations sociales. Pendant ce temps, au Zimbabwe, les autorités ont interdit les ventes ambulantes et nocturnes, invoquant des raisons économiques et sécuritaires. En Centrafrique, la MINUSCA a poursuivi ses efforts de réinsertion en format des jeunes détenus à des métiers manuels, tandis qu'en Somalie, la filière du lait de chamelle connaît un tournant économique majeur grâce à l'introduction de méthodes modernes et à l'appui gouvernemental. Ainsi, entre tensions internationales, violences armées et initiatives locales porteuses d'espoir, cette semaine africaine reflète toute la complexité et les contrastes d'un continent en perpétuelle transformation.
C'est encore ça en Afrique, que vous venez de suivre tout à l'heure, pour vous informer sur l'actualité du continent. Monsieur Maïga, vous venez de suivre tout à l'heure. Quelles sont vos espérances pour l'Afrique après avoir regardé ceci?
Bon, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on entend à travers les radios, les télévisions, comme chaos qu'on donne comme image à l'Afrique, et je vois qu'à travers ces démonstrations qui viennent d'être faites, on comprend que il y a des aspects positifs et que pratiquement l'ensemble des Africains sont désormais conscients de la réorganisation mondiale et de la situation géopolitique mondiale, où chacun cherche à vraiment essayer de se positionner comme ça se doit.
D'accord. Merci beaucoup, M. Maïga, M. Sidibé.
OK, merci beaucoup. Après avoir suivi ces éléments, je pense qu'aujourd'hui encore, l'Afrique a une image assez triste par rapport au reste du monde. Et il est temps que cela change. Nous avons toutes les potentialités, nous avons les ressources nécessaires. Il est temps aujourd'hui qu'on donne une autre image à l'Afrique. Et on peut vraiment, si on se donne les moyens, si on a une réelle volonté politique, tout est possible.
D'accord. Merci beaucoup, M. Sidibé. On garde l'espoir pour l'Afrique, surtout à travers des efforts de réorganisation qui sont en cours dans chacun des pays du continent. C'est sur ces mots que prend fin cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous avions sur notre plateau M. Mohamed Maïga. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci également encore une fois de me donner cet honneur d'être sur votre plateau.
Merci beaucoup. Monsieur Sidibé, Moussa Bilali Sidibé, il est journaliste au quotidien et l'Indépendant. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Ce fut un plaisir, Tchena. Merci également à Maïga et merci à toutes les téléspectateurs et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Joliba TV.
D'accord. Merci beaucoup. C'est la fin de votre émission. Rendez-vous dimanche prochain.